Eh bien, comment on est pu arriver à venir à la Bluegrass? Il y a combien de temps et dans quelles circonstances?
En fait, j'ai connu le Bluegrass bien même avant de m'intéresser au swing. C'est-à-dire quand j'ai commencé très tard à faire de la musique, c'est-à-dire à 20 ans. Donc ça fait genre 3-4 ans quoi. Et alors le tout premier truc dont j'ai été fan, moi, c'était Marcel Dadi, qui je traînais, hein, qui est mort, le pauvre, qui je traînais moi avec des copains qui faisaient du picking, alors que je faisais pas de musique. Et puis j'ai pris des trucs chez eux, j'ai piqué des riffs de guitare, j'ai appris la guitare en fait avec ses potes, là, un peu sans faire exprès, parce que je me destinais à une autre carrière, je voulais être comédien. Et alors, j'ai appris un peu la guitare un peu sans faire exprès, et en traînant, en écoutant les trucs de, comme se dit de Marcel Dadi and Friends, là où il y a plein de monde, dont Bill Keith, qui sait qu'il y a d'autres, il y a une quantité de Jean-Marie Redon, voilà, ouais. Plein de musiciens et européens et américains, et c'est comme ça que je suis venu à écouter du bluegrass tout doucement. Ensuite j'ai vu comme tout le monde Deliverance, et le truc que j'ai retenu dans Deliverance, c'est pas le moment où on fait queener le mec, mais c'est plutôt le morceau de banjo. Et nous on avait pris avec ce copain, c'est une cassette vidéo de Deliverance là, et puis on avait essayé de ralentir tout le truc pour relever le morceau, mais on n'avait pas de banjo, alors on avait accordé une guitare comme un banjo avec la cinquième corde à fond et tout ça. Enfin, on avait fait ce genre de travail à l'époque où Internet n'existait pas, où il n'y avait pas encore beaucoup de tablatures sur le banjo, et on avait relevé nous-mêmes comme ça pendant presque, je sais pas, il avait bien fallu 3-4 jours pour relever le morceau et comprendre l'accordage et comprendre les principes du bluegrass. Et après, évidemment, moi je me suis mis à acheter plein de disques, et puis j'ai découvert cette musique comme ça, en fin de compte, quand j'avais 20 ans. Voilà.
Alors, Papillon, pourquoi le thème du bagnard, de la justice?
Parce que moi j'ai toujours été fan de ce qui se passait en prison, non pas en tant que maton, mais plutôt en tant que population carcérale. C'est un milieu qui m'intéresse, comme j'aurais pu aimer, je sais pas, les enquêtes policières, ou alors, je sais pas, la science-fiction, un truc comme ça. J'aime bien d'abord intervenir en prison le plus possible et aller donner du loisir à ceux qui sont en train déjà de payer leur peine. Et sans aucun jugement de valeur sur ce qu'ils auraient pu faire, même s'il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Par exemple, je trouve que c'est pas bien d'assassiner les gens. D'accord. Mais j'y pense absolument pas. Ça dépend lesquels, on le fera. Mais j'aime bien aller en cabane, faire des concerts, animer des ateliers d'écriture avec des jeunes, comme je l'ai fait encore il y a pas longtemps. Et alors, donc ce qui touche la prison m'intéresse. Et, Papillon, c'est mon premier livre de chevet, en fait. J'ai dû découvrir ça à 14 ans, en fait. Bien avant de découvrir Emmanuel et des trucs un peu comme ça qui m'ont attiré vers d'autres pensées. Et en fait, j'ai commencé par plutôt triper sur le bagne.
On le suit, donc le milieu carcéral peut te donner des idées pour des chansons, alors?
Non, c'est pas que ça me... Enfin, oui, c'est plutôt le roman qui m'a donné... En fait, le tout début, je voulais faire un album sur un roman. Et puis, il se trouvait que c'était celui-là mon roman favori. Mais c'est pas le milieu carcéral qui me donne des... En fait, le milieu carcéral, j'aimerais qu'il n'existe pas, parce que j'ai envie qu'il n'y ait aucune prison et qu'on règle les problèmes de délinquance autrement, par une réinsertion sociale intelligente, et pas par l'enfermement. Mais bon, c'est un autre débat qu'on peut avoir plus tard. Mais parce que c'est long, je veux dire, et peut-être qu'il y en a qui s'en foutent. Mais ceux qui sont en cabane ne s'en foutent pas. Les travailleurs sociaux non plus, quoi.
Oui, j'aimerais savoir comment s'est passé pour l'album Papillon, donc avec les musiciens, comment ça s'est construit? Est-ce qu'il y avait une liberté de part et d'autre entre musiciens?
Ah bah oui.
Comme ça, comment ouais. Ça s'est...
On va répondre en deux fois. Moi, je vais répondre une partie, puis Jean-Marc il va répondre aussi peut-être un peu la sienne. Moi, j'ai écrit toutes les chansons de Papillon en proposant quelques arrangements à l'avance, c'est-à-dire on s'envoie des fichiers par Internet. Jean-Marc, habitant loin de chez moi, j'ai envoyé des rythmiques que j'avais déjà faites pour qu'il pose son banjo. Je faisais pareil avec les autres musiciens. Et alors... Et une fois que ça s'était fait, on a pu commencer pendant la tournée d'avant à répéter déjà un peu quelques morceaux et à les pré-enregistrer. Et ensuite, on s'est aperçu qu'on n'avait que 4 jours pour enregistrer l'album. Donc, on a décidé de le faire en live, c'est-à-dire pratiquement une grosse partie des chants et tout le backup, c'est-à-dire tout l'accompagnement en live. Et voilà, on a fait comme ça. Il y a une grosse liberté, puisque dans le bluegrass, il y a une grosse liberté. Donc après, je laisse la parole à Jean-Marc, parce que c'est un peu le principe de cette musique. Moi, j'embauche pas Jean-Marc, enfin, je lui demande pas de venir, c'est plus qu'une embauche. C'est beaucoup plus intéressant qu'une embauche, c'est une proposition de travail. Et ensemble, en tout cas, et quand je lui dis à Jean-Marc, vas-y, joue sur cette partie, j'ai pas besoin de lui dire, fais un do dièse et un fa. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va m'amener lui-même. Je te laisse la parole.
Oui, je confirme ce que dit Stéphane, c'est-à-dire que, évidemment, c'est lui qui écrit les chansons et les musiques. Il nous les présente et puis on a ensuite chacun son rôle, comme dans un groupe de musique bluegrass, c'est-à-dire que chaque instrument a un certain degré de liberté. On est supposé quand même jouer tous la même chose au même moment, en même temps, mais on a chacun des solos, par exemple, et pendant les solos, chacun décide de faire à peu près ce qu'il veut. C'est le bluegrass, c'est une musique improvisée, donc il y a une trame, comme l'a dit Stéphane, qui est celle des accords de la chanson, les paroles, etc. Il y a des couplets, des refrains ou pas, mais il y a une trame importante, on en tient compte, mais ensuite chacun a un degré de liberté pratiquement total dans chacune de ses parties. Et c'est ça qui est formidable, c'est de travailler avec Stéphane, avec quelqu'un qui est en attente de ce que nous on peut lui proposer. Et il arrive que quelquefois ils disent bah, je préférerais que tu fasses ça ou ça, et effectivement on s'adapte. Et c'est une collaboration qui est fructueuse à l'arrivée, puisque je crois que Stéphane est content de ce qu'on fait, puis nous aussi on est content de travailler sur ces belles chansons, sur ces beaux textes. Et c'est comme ça que toutes les musiques devraient, j'imagine, se faire.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que ça, il y avait même des moments où je demandais à Christian, c'est Y qui est pas là, et Jean-Marc, je disais, est-ce que ça c'est assez bluegrass, est-ce que cette idée-là est assez bluegrass ou pas, d'après vous, quoi. Alors, on a aussi fait référence, des fois on a été écouter des trucs sur Internet, parce que c'est pratique, hein, mais sinon on aurait écouté des vinyles, mais on s'est dit, tiens, tel groupe, il fait tel genre de break et d'arrangement, est-ce que c'est pas un peu trop par rapport, il fallait pas qu'on soit trop newgrass, il fallait qu'on soit un peu bimo, mais quand même moi ma référence c'était sur ces deux albums, c'est plutôt Del McCoury et que Bill Monroe, mais quand même il y a un fond Bill Monroe et Scruggs et en tout cas le bluegrass des années 50 fait par Del McCoury maintenant, mais qui pour moi dira du traditionnel, quoi, enfin en tout cas de la famille de Bill Monroe, avec un chant différent, en fait, puisque
Bill Monroe d'après comme ça.
Mais il le regrette lui-même, d'ailleurs, on en a parlé un jour. Il en est mort. Hein.
Voilà. Jeff et TV Radio. Est-ce que le but n'est pas d'aller chanter en prison, tout simplement, un peu comme l'aurait fait à son époque de Johnny Cash et...
Non, c'est pas le but. Le but, c'est de faire de la musique pour en continuer son métier et s'épanouir. Mais si on me propose d'aller jouer en prison, je dirais oui, si c'est possible, mais c'était pas le but, en fait. Mais d'ailleurs... On a joué une seule fois Papillon en prison. C'est plutôt les surveillants qui n'étaient pas très contents, en fait, parce que je proposais des histoires d'évasion quasiment à toutes les... Et alors, je me rappelle avoir vu des surveillants, pour pas dire des matons, mais je s'appelle des surveillants, en vrai, dire à la directrice, écoute, madame, faut pas dire ça quand même. Tu vois, c'était eux les plus coincés, en fait, dans tous les prisonniers qu'il y avait, la fois où on a joué ensemble en cabane, ils ont... Moi, je pense que dans le fond, ils s'en tapent un peu d'entendre des histoires de cabane. Ce qu'ils veulent, c'est une musique vivante, peu importe... En plus, c'est un gros mélange, hein, dans les prisons. Il y a vraiment une micro-société avec tous les mélanges possibles. Il y a des gens de qui parlent à peine français, des gens qui viennent de pays totalement différents. Il y a des prisons où il n'y a pas beaucoup de français aussi, etc. Ce qu'ils veulent, c'est de voir un groupe qui joue et qui se marre, en fait. Après, le fait que ça parle de cabane, moi, je pense que c'est même... S'ils avaient à choisir, ils auraient peut-être plutôt pas choisi ça, quoi. Bon. Après, il y en a très peu qui connaissent Johnny Cash en prison. Quelques-uns, les Rockers. Alors, donc, non, mais qu'ils sont en cabane, je veux dire. Toi, t'es dehors, t'as de la chance, tu dors chez toi. T'as une femme et tout. Mais eux, non.
Ah, bah, cool.
Alors, en revenant sur le répertoire brassmusique, tout est en français ou il y a quand même des morceaux qui ressortent en anglais?
Il y a un refrain en anglais à un moment, voilà, une chanson qui s'appelle That Loneliness Is Mine. Et alors, et c'est tout, c'était pour. J'ai fait ce refrain en anglais justement pour l'avoir fait une fois, mais en fait moi je m'exprime en français, je chante la plupart du temps dans des concerts en France. J'aime bien comme ça sonne l'anglais et l'américain, mais je n'ai pas beaucoup de raisons de chanter en anglais. J'ai chanté quelques chansons en anglais, j'en connais pas, trois, mais ce n'est pas un truc que j'utilise souvent, quoi. En fait, je vois pas pourquoi je chanterais en anglais, en fait. C'est un peu comme là, maintenant, quoi. C'est comme si j'avais des lunettes noires, quoi, ça. Bon, j'ai des lunettes de vue et les autres sont loin, en fait. Moi j'ai envie de faire de la musique pour parler aux gens, je vais donc parler en français, même si c'est du bluegrass et que ça sonnerait mieux en théorie en Amerloc. Et tout le travail a été justement que ça soit pas du faux anglais et que ce soit du français entier. Et donc il y a des mots que je n'ai pas utilisés parce que je trouvais que ça faisait trop parigo. Mais il fallait pas non plus prendre un accent comme si on fait du Zydeco et qu'on prend l'accent de Louisiane, ça sonne mieux, forcément, et si on fait du Cajun, mais c'est hyper pas naturel. Et moi je me vois pas faire ah oui t'es là long danser tu vois et faire le faux accent à Merlot et pourtant j'adore quoi. J'ai écouté Clifton Cheney toute la nuit même. Avec une bonne bouteille de Glenlivet.
Et bien, comme vous me lancez la perche et que vous êtes entier, je voulais vous poser cette question.
Je suis entier, je suis parisien.
Entier. On vous connaît plutôt comme un peu provocateur. Alors, vous pensez que ce soir, le public de Craponne Festival Country va plutôt adhérer à votre humour décalé? Vous êtes posé la question ou...
Non, je suis pas provocateur, je suis naturel, je dis les trucs qui me viennent un peu, quoi.
Oui, c'est-à-dire que...
Provocateur, ouais, c'est... Moi, j'ai l'impression que Gogol premier, c'est un provocateur, parce qu'il va dire n'importe quoi exprès pour que ça scandalise. Et alors que... Moi, j'ai l'impression d'être... Par contre, je me retiens pas. Et oui, effectivement, il se peut que je me foute un peu de la gueule du line dance, parce que je trouve ça assez risible, mais bon, c'est juste mon avis, quoi. Et après, il se peut que j'oublie aussi, quoi. Si je suis bien concentré sur mon histoire, il se peut que j'en parle pas. Je prévois pas ce que je vais dire, en fait.
On sait pas,
même moi, je peux pas vous dire. Ici, je pourrais très bien dire, ah ouais, tu vas voir, je vais tout défoncer ce soir, et je ne dise pas un mot.
Ça reste naturel, mais c'est quand même un autre public. Que vous allez affronter par rapport
non, il n'y a pas d'autre public, je vais dire, parce que les gens ont des chapeaux. C'est pas le... Non, parce qu'il y a un folklore du concert country qui fait que les gens s'habillent, mais je veux dire, les concerts punk rock, les gens, ils s'habillent pas en Kenzo non plus, quoi. C'est des réseaux différents et les gens sont un peu tous les mêmes, quoi. L'être humain, en règle générale, est assez con. et on émerge et on peut arriver à communiquer avec les gens avec qui on partage une idée de la musique. Et tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est si moi je me sens bien, si nous on est bien sur scène et tout, et des fois il n'y a pas de raison de provoquer, en fait. Provoquer, en fait, c'est plutôt répondre à un truc qui m'agresse, en fait. C'est pour ça que j'ai pas l'impression d'être provocateur, mais plutôt être joyeux, débridé et des fois grossier.
Oui, c'est quelqu'un.
Ah, bah, excuse-moi, je ne voyais pas. Non, mais je suis désolé.
Le rêve passe sur l'île du diable, le papillon est passé. Est-ce que tu as une prochaine étape dans le même courant ou tu vas encore évoluer vers d'autres horizons?
Ouais, je vais partir vers d'autres horizons parce que déjà je peux pas faire deux albums concept de suite. Ma maison me dit je veux pas, c'est un truc important, parce que je pensais faire un album sur le Tour de France et avec un groupe de tango, et en fait je sais pas si je peux le faire, parce que deux albums de suite pour une maison de disques, deux albums concept de suite, ça leur fait fumer un peu trop le cabaret. Soit pour eux c'est totalement incompréhensible. C'est-à-dire ils peuvent pas comprendre que enfin ils l'ont fait là poliment pour un album, mais pour eux c'est trop de qu'on fasse un album sur une seule idée générale. ce qui est le cas de l'album de Papillon. Donc je vais pas pouvoir refaire, mais j'ai des idées d'albums concept pour 40 albums là, mais le prochain album ce sera un album avec des chansons avec des thèmes différents, enfin, qui dont les thèmes se rejoindront pas quoi. Et je fais tout ce que je sais, j'ai pas fait mais une seule ligne. Je sais que je dois y bosser en début d'année, mais je préfère, je laissais passer les fêtes de Noël, hein, le foie gras, ce sont là. J'essaie de pas trop en manger pour pouvoir être alerte et dynamique. Sachant que manger du foie gras, c'est pas très très bon. D'abord, ni pour les oies, ni pour vous.
D'autres questions?
9. 8, 7.
Voilà, ton album s'accompagne d'une bande dessinée.
Oui.
Donc j'aimerais savoir pourquoi déjà, et puis ouais. Quelle était la genèse de cette histoire. Tu te mets un peu dans la peau de Papillon, en fait.
Oui, oui, en fait, c'est le dessinateur qui on en a longuement parlé en disant qui c'est qui fait la tête de Papillon, sachant que dans mon album, je dis je. Me mettant à la place de Papillon, c'était logique que ce soit moi qui soit dessiné dans la BD, mais la genèse de la BD, elle est venue assez naturellement. J'avais demandé à un dessinateur de faire la pochette de notre album, là, et de faire quelques bulles à l'intérieur explicatives de l'histoire. Et en fait, quand on a regardé ça, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas une BD directement, sachant que c'est pas le même travail. Une bande dessinée, c'est à peu près un an de travail, alors qu'une pochette d'album, ça peut être que 4 jours. Alors ma femme, Cécile Richard, qui est scénariste de cinéma, qui est à peu près la même chose que les scénaristes de BD, c'est-à-dire c'est grosso modo un peu le même... Enfin, qui est scénariste de formation, et alors ça lui plaisait de faire ça. Un voisin à nous qui a fait la pochette de l'album, ils sont lancés tous les deux dans cette aventure, et la genèse, elle est assez compliquée. C'est-à-dire, le truc qui est le plus dur, c'est pas tellement de dessiner, de raconter l'histoire, c'est surtout de réussir à avoir le contrat pour mettre un disque dans une bande dessinée, et ça, c'était tout un bordel administratif, en fait. Je dis bordel parce que c'était plus que complexe. Il a fallu qu'une grosse société comme Sony, qui n'avait jamais fait ce genre de truc, nous donne des autorisations pour mettre un CD dans un album de BD. Les albums BD, il y en a plein qui sont faits, mais chez Sony, c'était le premier, donc ils ne savaient pas trop comment faire. Et alors, comme c'est une grosse multinationale, c'est pas facile de leur dire « Ouais, mais ce serait vachement bien si on le faisait. » En fait, ils n'entendent pas ce genre de truc. Donc, il y a eu une aussi grosse partie discussion de contrat qu'une partie où le dessinateur dessinait et où Cécile, elle faisait le scénario en disant « Bah tiens, là, ce serait bien qu'on passe tel chapitre. » c'est un grand truc comme ça, et ça s'est fait en 3 mois au lieu d'un an. Et ce qui est, ils ont battu leur record. Enfin, ils ont travaillé... d'arrache-pied, comme on dit, hein, sauf que c'est avec un ordinateur, et ça s'est fait comme ça, et moi au début ça m'a fait un peu bizarre d'avoir ma tête dedans, mais je l'avais vu dans la pochette de l'album, du coup puis moi j'ai l'habitude de me voir en photo, en fait j'ai un peu flippé les 2 premières années, puis maintenant franchement ça me gêne pas quoi, je voulais juste qu'il dessine des guitares de bonne facture, que tous ces trucs précis soient importants, que j'ai pas une tête de con, j'avais des lunettes avec une monture que j'aimais bien, alors je voulais qu'il dessine celle-là, des choses un peu comme ça quoi, je voulais pas avoir trop de ventre sur les dessins, je voulais pas avoir un trop grand nez de profil, on en a parlé pendant 3 minutes et c'était bon, et je voulais surtout des couleurs qu'il y a dans cette bande dessinée, là, que j'en ai pas, sinon je vous l'aurais montré, mais je voulais absolument que ce soit ce vert un peu fifty là, qu'on retrouve dans plein de bandes dessinées et de labels et sur des vinyles, hein, je veux qu'on garde cette couleur, qu'on n'ait pas de fluo quoi. Désolé pour toi même. Donc, mais en tout cas, c'était une grosse aventure et surtout un gros pari. Le dis, c'était une partie de plaisir à faire par rapport à la bande dessinée, c'est que tout a été abandonné, ils ont abandonné 40 fois, quoi. Ils ont eu un éditeur qui leur a dit « Ouais, d'accord, et c'est bon », 2 jours avant de signer, il annule, etc. Ils ont eu plein de chutes comme ça, un peu comme un film, où ça se fait plus, etc. Et alors, c'est une grosse aventure. Et moi, j'ai vécu ça de loin, vu que c'était ma femme qui le faisait. Moi, pendant ce temps-là, je répétais avec nos amis musiciens, je répétais la tournée, et puis là... Mais quand même, c'était une grosse préoccupation dans notre famille. N'en dites rien à personne.
compte sur vous que ça ne sorte pas de la tente.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non.
L'album, il s'est vendu à... Alors moi, ma promo, elle s'est arrêtée tout de suite après les événements du Bataclan, parce qu'il est sorti 15 jours avant, donc tout s'est arrêté à ce moment-là. Mais franchement, je préfère ne pas vendre de disques que d'être blessé au Bataclan, donc c'est pas très très grave. Mais par contre, j'ai pas eu une très très grosse promo avec un album que les maisons de disques appellent un album SP, c'est-à-dire... À la fois, je suis content qu'on m'appelle pas variété parce que je déteste ce truc-là, mais là, alors que c'est un album un peu spécial, en plus, ça a été arrêté par des événements qu'on contrôle pas, et sachant qu'on fait une centaine de dates par an ensemble, et puis qu'on a fait quelques promos et quelques télés, mais pas beaucoup, l'album, pour l'instant, il s'est vendu à plus de 15 000, alors qu'il est sorti au mois de novembre, d'accord ? Plus de 15 000 exemplaires, et les BD, je me rappelle plus, je pense que les BD, c'est pour l'instant de 3 000, Et c'est pas tout à fait 20 000 en fait l'album pour l'instant. Voilà, c'est tout ce que je sais, mais c'est un truc que je demande jamais parce que j'oublie de demander en fait. Mais bon voilà. Et pourquoi? Parce que Renaud il a un gros tabassage, il en est à combien? Ah oui, non mais c'est rien à voir en fait. C'est... Oui, bien sûr. Ah mais Non, mais c'est des techniques différentes, en fait. Moi, je me plains pas d'avoir peu de passages radio et peu de ventes de disques, parce que je reste dans un circuit que j'aime bien, c'est-à-dire les festivals pas trop gros, les salles qui sont pas trop trop remplies, enfin pas trop trop, les petites salles bien remplies, je veux dire, pardon. Et j'aime bien le fait de sortir acheter du fromage de chèvre sans signer d'autographe comme Zidane. Et tout ça me correspond bien et je me sens bien dans cette vie-là, en fait. Alors, je suis pas jaloux. Effectivement, si j'avais plus d'argent, ben, je ferais réparer ma voiture un peu plus vite, des trucs un peu comme ça. Mais dans le fond, je m'en branle, en fait. Alors, je me sens bien ici.